Calibre, une émission de Libre Antenne sur Radio Galère 88.4, tous les mardis de 20h à 20h30, pour parler de corps, d'amour, sexualité, et rester les experts de nos vies sans jugement.
Fest, été et chatoune.
Liberté.
Garçon-fille, ou que ce soit garçon-garçon ou fille-fille.
Les êtres humains, c'est normal qu'on en parle.
Ouais, je sais pas, l'amour c'est compliqué quand même.
Tendresse, affection.
Émotion.
C'est le sujet tabou, hein.
Plaisir.
Couple.
Sexe.
Sexy.
C'est au cœur de la vie.
Et bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Calibre. Et ce soir, c'est le quatrième mardi du mois. Et du coup, les quatrièmes mardis du mois à Calibre, c'est une émission spéciale. Parce que Calibre, c'est une émission de Libre Antenne qui parle des sujets de corps, amour et sexualité. On vous invite tous les mardis de 20h à 20h30 et même des fois jusqu'à plus tard à venir discuter avec nous au plateau, à l'antenne, nous appeler ou nous envoyer des textos pour échanger autour de thèmes de corps, amour et sexualité. Et les quatrièmes mardis du mois, on fait des émissions musicales. Et ce soir, ce n'est pas vraiment une émission musicale, j'ai plutôt décidé de vous lire un extrait d'un livre que je vous présenterai après. Et pour commencer, je vous laisse en musique avec Lynn Collins. You can love me if you don't respect me.
Everybody.
Thing is blowing my mind, wearing me down, using up my time. Why don't you
This low-down life is getting to me. Pulling up my head before I see right through. Whole rotten thing is blowing my mind. Wearing me down, using up my time. Why don't you step back and set me free? 'Cause you can't love me if you don't respect me. You sit there, hear what I say. Treated you good most every day. Worked my fingers down to the bone. Waited up all night, but you wouldn't come home. Being used is where it's at. I'm telling you, I won't have that. I follow your rules, it comes out the same. When the going's good, you're playing funky games. But why don't you step back and set me free? 'Cause you can't love me if you don't respect me. Pulling up my head before I see right through. Whole rotten thing is blowing my mind. Wearing me down, using up my time. Why don't you step back and set me free? 'Cause you can't love me if you don't respect me.
You can't love me if you don't respect me.
Why don't you step back and set me free?
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Galère 88.4. On vient d'entendre Lynn Collins avec You Can Love Me If You Don't Respect Me. Ce soir, vous êtes à l'écoute de Calibre sur le 88.4. Et ce soir, je vous propose une lecture d'un texte de Dorothy Allison qui a été publié dans le recueil de textes qui s'appelle Peau à propos de sexe, de classe et de littérature. Dorothy Allison, c'est une activiste féministe lesbienne radicale dans les années 70 à peu près. Elle a écrit des romans et dans ce recueil de textes, elle parle beaucoup de son rapport à l'écriture, son rapport au sexe, aussi à son engagement féministe. Et également, elle parle de l'inceste. Et c'est un texte sur l'inceste que je vais vous lire qui s'appelle « Stratégie du fusil de chasse ». Du coup, petit trigger warning avant de commencer. Stratégie du fusil de chasse. J'ai maintenant 43 ans. Il y a 20 ans, je participais à mon premier groupe de conscience, un événement extraordinairement important pour moi. J'ai depuis moins de fois raconté ce jour, mais ce dont j'ai rarement parlé, c'est à quel point j'étais désespérée, à quel point j'étais prête à tout abandonner. J'étais suicidaire, amoureuse folle d'une petite garce foncièrement méchante qui ne m'apportait rien de ce dont j'avais besoin, et j'enchaînais les heures à me tuer au travail au centre de sécurité sociale. En même temps, je collaborais à la publication d'un magazine féministe. Je faisais du bénévolat dans une crèche et j'assurais l'astreinte téléphonique d'un numéro vert à destination des femmes victimes de viol. J'avais ce blues que l'on nomme 6 réunions par semaine, pas besoin de dormir de toute façon. Je me suis rendue à cette réunion de groupe lesbien intitulée « Réunion de prise de conscience ». Je me suis assise et tout ont commencé à parler. Essentiellement d'absente avec lequel elle venait de rompre. Mais une des femmes, celle assise dans le saco en face de moi, a parlé de son père. Elle murmurait qu'elle avait vraiment besoin de dire aux gens combien elle le détestait. Qu'elle rêvait toutes les nuits d'aller le tuer chez lui. Elle faisait des rêves angoissants et détaillés d'un fusil de chasse à double canon, en métal bleu et à crosse en bois. Elle rêvait qu'elle chargeait ce fusil et le mettait dans un sac, le tenait tout contre son corps, jusqu'à ce qu'elle puisse le sortir, quand elle se tiendrait une nouvelle fois en face d'elle. Elle avait besoin de dire que ses rêves étaient devenus si vivants qu'ils étaient la seule chose qu'elle attendait avec impatience. Pendant que je l'écoutais, je me rappelais mes propres rêves avec un fusil exactement comme le sien. D'un métal bleu et froid. Je me suis penchée en avant afin d'entendre chaque parole qu'elle prononçait ou ne prononçait pas, de voir la tension de sa nuque et la façon dont elle se tordait les mains, sa douleur et sa rage à leur maximum. Elle était aussi proche de craquer que je l'étais moi-même, aussi désespérée et seule. Je voulais la toucher, pas comme une amoureuse, mais comme un membre de ma famille, pour lui apporter du réconfort, de l'amour et de l'espoir. À la place, je lui ai offert le don inépuisable de ma famille, l'humour amer. Je suis sortie d'un petit rire et j'ai dit « Je tuerai le vôtre si vous tuez le mien. » Je plaisantais, mais à moitié. Et je lui ai dit que je faisais les mêmes rêves. C'était la première fois que je disais à quelqu'un que je voulais tuer mon beau-père. C'est à partir de ce moment que j'ai été capable de parler de mon enfance. On m'avait appris à ne parler à personne de ce qui se passait chez moi, pas seulement parce que c'était honteux, mais parce qu'il était dangereux physiquement pour moi de le faire. Toute mon enfance, on m'avait prévenu encore et encore que si jamais je répétais ce qui se passait à la maison, je serais emmenée ailleurs. Je terminerai en maison de correction et passerai le reste de ma vie à rentrer et sortir de prison. Il importait peu que je me fasse violer et que je n'ai rien demandé. Cela importait peu parce que j'étais ce que j'étais, née dans cette famille, pauvre et connue dans le comté où nous vivions, pauvre et sans espoir. Oh, j'avais rêvé de tuer cet homme, mais les petites filles ne tuent pas leur père pour s'en laver les mains ensuite. On m'avait appris à être très sage, très poli en public, à parler correctement aux dames du catéchisme, à travailler afin d'obtenir une bourse et de pouvoir ficher le camp de la maison. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tellement bien fait que je me suis persuadée que seuls les hommes pauvres battaient leurs filles, que seuls les hommes pauvres violent leurs filles, et que seules les femmes pauvres les laissent faire. Je croyais que les filles des classes moyennes évoluées étaient des créatures différentes, que les abus sexuels n'existaient pas dans leur famille. C'était une raison de plus pour me taire. Mais la femme assise dans le sacco n'était pas issue de la classe moyenne. C'était une gosse échouée des classes supérieures, paumée. Pourtant, en me parlant de sa vie, elle me parlait de la mienne. Elle nous a raconté que lorsqu'elle était enfant, elle se battait avec son petit frère pour décider de qui allait dormir à côté de la porte. C'était quelque chose que mes sœurs et moi avions fait jusqu'à ce que je quitte la maison, et qu'elle a affronté seule mon beau-père. Elle a raconté qu'elle couchait dehors avec ses petites copines, non pas qu'elle veuille spécialement sortir avec ou même faire l'amour, mais parce qu'alors elle ne dormait pas à la maison. Elle a dit que le sexe n'était pas le pire dans tout ça, bien que ce soit la partie qui intrigue le plus les gens. Bien pire encore était le mépris qui s'ensuivait quotidiennement. C'était ma vie qu'elle racontait. Un monde éloigné de la famille où elle avait grandi, mais ma vie quand même. Chacune de nous avait grandi en pensant qu'être battu est normal, qu'être tripoté est normal, qu'être insulté fait partie de la vie, que tout le monde le fait, que simplement les gens n'en parlent pas en public. Nous nous considérions chacune dans notre coin comme des anomalies, des monstres. Ce que l'on a découvert en discutant, par la suite, 4 ou 5 autres femmes l'ont aussi découvert ensemble, c'est que nous étions toutes sur le même modèle. Pour nous toutes, la famille avait un camp de prisonniers, avait été un camp de prisonnières. Une horreur journalière, complètement sue et tue à la fois. Je n'ai commencé à écrire, ou plutôt, je n'ai commencé à garder ce que j'écrivais qu'à partir de 1974, lorsque j'ai publié un poème. Tout ce que j'avais écrit avant, 10 ans de journal intime, de nouvelles et de poèmes, je l'avais brûlé, de peur que quelqu'un ne le lise. Dans un petit coin de ma tête, il y avait toujours ma mère qui me murmurait « Ils vont t'envoyer en détention ». Tu finiras dans la prison du comté et ta vie sera fichue. Tu ne veux pas faire ça. Mais maintenant, après toutes ces années, je rêve que je suis une petite fille de 13 ans, enfermée derrière des barreaux, mon minou me faisant mal, ne sachant pas comment en parler à qui que ce soit. Parfois, je rêve encore que je descends en Floride avec un fusil chargé dans une valise. Lorsque j'ai démarré l'écriture de l'histoire de Beaune, je voulais faire 2 choses. Lorsque j'ai démarré l'écriture de l'histoire de Beaune, je voulais faire 2 choses. Recréer la famille que j'ai profondément aimée, mais qui ne m'a pas sauvée. Et mettre par écrit tout ce qui arrive dans une famille violente où l'on pratique l'inceste. Je voulais montrer aux gens que la vie continue, même lorsque vous êtes battu et violé. Qu'il vient la plupart du temps la nuit ou lorsque votre maman travaille tard, et que la grosse lutte que vous avez à mener en tant qu'enfant, c'est d'essayer de croire que vous n'êtes pas le monstre que l'on dit. Vous avez besoin de savoir que vous existez pour de vrai. Que ce qui vous arrive n'est pas de votre fait. Parce que ce que je pensais lorsque j'étais enfant. Je pensais que si j'étais un peu meilleure, un peu plus futée, un peu plus méchante, un peu plus rapide, ou même meilleure chrétienne, aucune de ces choses affreuses n'arriverait. Alors, j'ai écrit une histoire aussi forte que je le pouvais sur une petite fille que l'on persuade lentement qu'elle est un monstre et que les gens qu'elle aime le plus ne sauvent pas. Ce qui me manquait toujours lorsque je lisais les livres sur l'inceste ou que je parlais aux autres survivantes, c'est que j'ai ressenti à propos de ma mère. Je n'ai pas besoin de raconter à quiconque ce qu'a fait mon beau-père quand j'étais enfant. J'ai suffisamment travaillé sur la violence à laquelle j'ai survécu, qu'il n'est plus tellement nécessaire pour moi d'en parler autrement que pour en faire froidement état et refuser d'avoir honte de mon enfance ou de la personne que je suis devenue en étant encore en vie. Pour ma propre santé mentale, je dois être terre à terre concernant ce qui m'est arrivé, afin de ne pas renier et de ne jamais rendre les armes face à la pression constante qu'il me pousse à le faire. Alors j'ai essayé d'être honnête quant au fait d'être une survivante de l'inceste et de ce mépris violent. Mais les choses qu'il faut arriver à comprendre, dont j'ai encore besoin de parler, ne sont pas plus évidentes ni plus facilement accessibles. Plus que les détails concernant les abus sexuels, ce sont les questions concernant l'abandon et la trahison de ma famille que je veux examiner. J'ai besoin de comprendre et de parler de ma mère, des choix qu'elle a été forcée de faire, de l'impossible douleur de sa lutte afin de créer une famille et de prendre soin de ses filles. Comment, me demandais-je, amour et trahison peuvent-ils devenir si intimement mêlés? J'ai tenté de comprendre la vie de ma mère, toute seule, me rappelant que j'aimais mes petites sœurs, mais que je voulais qu'elles dorment près de la porte. J'observe ma vie. Il me souvient que j'étais une enfant qui aimait éperdument sa mère et la haïssait quelquefois qu'elle rentrait tard du travail. Quelquefois qu'elle avait une heure et demie de retard et qu'il fallait que je survive seule à cette heure et demie. À 5, 7, 9 et 11 ans. J'étais folle de rage contre elle. J'ai véritablement aimé ma mère, mais alors enfant, je ne comprenais pas pourquoi elle ne nous emmenait pas ailleurs, n'importe où, vivre dans n'importe quelle autre condition que celle dont nous étions prisonnières. Je savais parfaitement que ma mère nous aimait, moi et mes sœurs, et qu'elle faisait ce qu'elle pouvait pour essayer de nous sauver. Mais je sais aussi que ma mère n'avait aucune idée de ce qui se passait chez nous. D'abord parce qu'elle se mentait à elle-même, afin de ne pas devenir folle. Ensuite, parce que nous lui mentions pour sauver notre peau et la sienne. Et enfin, parce que le monde lui mentait et nous mentait sur ce qui nous arrivait. Le monde nous disait qu'on nous donnait des fessées, pas que nous étions battus, et que ce manque de considération violent envers les enfants était normal, qu'il n'y avait pas de quoi se plaindre. Le monde mentait et nous mentions, et mentir devient une habitude. Je me suis promis de prendre l'habitude de mentir, afin d'essayer de vivre dans la vérité tous les jours de ma vie. Mais ce n'est pas simple. Démêler les mensonges de la vérité est quelque chose d'atrocement compliqué, en particulier pour les écrivains et écrivaines. J'invente une histoire, je la construis, et je désire qu'elle ait un impact, un effet, pour littéralement changer le monde qui a menti à ma mère, mes sœurs et moi. L'histoire que j'invente provient de ma vie et de mes croyances, mais n'est pas une autobiographie, ni même la biomythographie, dont Audre Lorde se fait la championne. Ce que je me suis appris à faire, c'est faire éclater la vérité à travers l'écriture. Mes sœurs ne se souviennent pas de toute leur enfance, et un des rôles que j'ai joué dans ma famille a constitué à être celle qui la leur rend. Un problème qui surgit avec mes romans, c'est que je pars parfois d'une petite chose qui nous est arrivée pour aboutir à quelque chose de très lointain. Du coup, mes sœurs ne saisissent plus la différence entre l'histoire que j'ai inventée et notre vie. Ce que j'ai dû faire l'année qui a suivi la sortie de mon roman, c'est m'asseoir avec mes petites sœurs et tout revoir avec elles. J'ai dû dire « Cette page est vraie, cela ne m'est pas arrivé, mais cela vous est arrivé. » Et je ne connais rien d'aussi dur que cela. Lorsque ma petite sœur et moi-même avons finalement utilisé le mot inceste et avons parlé de pire encore, la haine quotidienne dans laquelle nous étions plongées en tant que filles, elle m'a dit qu'elle ne laisserait aucun homme comme ça, être seul avec ses filles. J'ai eu à lui dire que ce n'était pas seulement une question d'homme et d'homme comme ça. J'ai dû lui parler des femmes que j'ai rencontrées, après avoir quitté la maison. Des femmes qui transpiraient la haine, aussi puissamment que le pire homme que l'on ait jamais connu. J'ai dû lui dire que le monde est plus grand, plus compliqué et plus méchant que ce que quiconque nous avait dit. Et que les outils pour l'affronter existent. Mais que l'on doit les inventer soi-même et se les fabriquer au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. Une des raisons pour lesquelles j'écris est de créer mes propres règles, de forger mes propres outils, afin de montrer à mes sœurs les choses que j'ai apprises. Et, en faisant en sorte de créer un échange entre nous, je peux à mon tour retirer des choses de ce qu'elles peuvent apprendre. Une autre raison pour laquelle j'écris, c'est cette femme dans le fauteuil en face de moi. Celle qui n'a pas vécu ma vie, mais a vécu ce que j'ai vécu. J'ai reçu une lettre d'elle il y a peu. Elle vit dans l'Iowa avec sa fille, et dans cette lettre, elle me dit qu'elle ne rêve plus de fusil de chasse. Elle y pense seulement de temps en temps, et au grand jour. Cet essai découle d'une table ronde, Self-Revelation Reaching as Transformation, qui s'est tenue au Lab de San Francisco au printemps 1993. Y participent Cheryl Brody, Christine Godbad, Saphir et Sue Martin. Une partie de la discussion est parue dans Critical Condition, Women of the Age of Violence, publiée par Amy Scholder.
It's official, and you know that from the moment you hear my name, from the moment you hear my voice, from the moment you hear me say big man ting. Yeah. Amplified though, let's keep this thing going, baby girl. No shining what time it is. I'm having so much fun right now, and this is monsters. Mm-hmm. You're a monster, girl. You're definitely a monster.
Mafia. Think I created a monster. You used to love me to death. Now you'll be the death of me. So get out of my bed. You turned into a goblin. But you're stuck in my head. I made a monster. I made a monster out of you. There's a monster in my bedroom. Mama, come and get it out. Call somebody to my rescue. There's a monster in the house. It's kicking down doors, stomping on the floors. There's a monster in the house. Scared to turn the lights out. Cause in the night I'm kinda frightened I can climb out. And I ain't trying to be the type to have a fight. Cause I might fly off the handle. I'm that type of a wife. If you act right, I'll be nice. And now you angry as me. And I wanna break the plates. So now you're stamping your feet. And you start to raise the pace. And now the neighbors awake, twitching the drapes, saying that a monster escaped. Nobody safe. There's a monster in my bedroom. Mama, come and get it out. Call somebody to my rescue. There's a monster in the house. It's kicking down doors, stomping on the floors. There's a monster in the house. You give me night terrors and I might never get over you. With this right bite on my neck from a vampire that I sleep by. Got me laying in the bed beside this green light. So now I'm angry as you when I wanna call you shit. And you get mad like you're starting out of a horror flick. You need to snap out before I go get my dad out. And find somebody to get me out of this madhouse. There's a monster in my bedroom. Mama, come and get it out. Call somebody to my rescue. There's a monster in the house. It's kicking down doors, stomping on the floors. There's a monster in the house. I created a monster. You used to love me to death. Now you'll be the death of me. So get out of my bed. You turned into a
just stuck in my head. I made a monster. I made a monster. I made a monster out of you. There's a monster in my bedroom. Mama, come and get it out. Call somebody to my rescue. There's a monster in the houses, kicking down doors, stomping on the floors. There's a monster in the house. Mafia. La nuit dernière, j'ai rêvé que je revenais. Il y avait des hautes herbes, de la luzerne. J'avais fini par tuer le temps et puis descendre les ordures, ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Je désarme pas. Des colères, je décolère pas. Je sais ce que c'est de se taire. Ce qu'ils désirent, ils doivent le posséder. Ce qu'ils ne peuvent pas posséder, ils doivent le pénétrer. Ce qu'ils ne peuvent pas pénétrer, ils doivent le détruire. Ce qu'ils désirent, ils doivent le posséder. Ce qu'ils ne peuvent pas posséder, ils doivent le pénétrer. Ce qu'ils ne peuvent pas pénétrer, ils doivent le détruire. Ils doivent le détruire. Désarme, je désarme pas. Décolère pas. Je décolère pas. J'avais fini par descendre les ordures, ce qu'il fallait faire depuis longtemps.
Vous êtes toujours sur le 88.4 Radio Galère. On vient d'écouter Lola Lafont et Léva avec Des Colères. Juste avant, c'était Amplified Dots avec Monster. Et avant, vous avez entendu la lecture d'un texte de Dorothy Allison. Et je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Galère. Un bon 1er mai. À mardi prochain.
I am somebody. tell you there was nothing I couldn't be. If you're listening to this song and your life is going wrong, just look in the mirror and sing this magic song.